Lucas, je suis blogueur et entrepreneur, je vis à Paris et ma passion c'est d'accompagner les gens, les particuliers à lancer un business sur le web en utilisant un blog. Et donc à partir de là, je lance des formations, la conférence entrepreneur et à côté de cela, je fais aussi du freelance et en ce moment, j'accompagne une ONG qui fait de l'humanitaire et c'est super, je suis classe.
C'était classe. Alors justement, tu nous as donné quelques petits conseils là dans cette conférence et là, tu vas nous donner un peu plus des erreurs et des conseils à faire pour se lancer sur le web. Ouais. Dis-moi un peu plus.
Donc ce que je te propose, moi j'ai noté trois conseils, trois réussites et trois échecs un peu et je pense que ça va vraiment aider les gens parce que j'aurais beaucoup aimé entendre ça, me le dire à moi-même il y a quelques années. Donc, parmi les réussites, je pense que d'avoir utilisé YouTube, j'entends souvent des gens en ce moment dire que ça les intimide, qu'ils n'aiment pas se voir, ils n'aiment pas s'entendre. Et je pense qu'on est tous passés par là, qui était super à l'aise la première fois. Et du coup, moi, je me suis lancé là-dedans. Et l'idée, ce n'est pas tellement d'utiliser YouTube ou de l'écrit ou un autre format, c'est d'utiliser la plateforme où on est plus à l'aise, où on peut exprimer au mieux qui on est de manière authentique. Et il s'avère que je suis… Avec la pratique, je suis assez à l'aise à l'oral. Et donc, c'est une plateforme où j'ai fait des tutoriels, des screencasts, où je montre des choses, comment utiliser ça et je me filme en même temps. Donc, ça donne le côté humain, mais c'est du vrai contenu. Mais je fais aussi des vidéos plus inspirationnelles pour encourager les gens. Donc, ça, c'est vraiment l'une des meilleures choses que j'ai faites. Aujourd'hui, j'ai même fait une vidéo, un tutoriel sur Twitter. J'en ai fait trois versions. Et en tout, j'ai réussi à avoir 250 000 vues. Alors, ça, c'est… une vidéo parmi les centaines que j'ai faites, mais ça montre que aussi en testant, en fournissant du contenu, de temps en temps, il y a une vidéo qui va ressortir comme ça et je trouve que justement, il faut tenter. Et moi, j'encourage les gens à tenter différents formats avant de se focaliser sur un ou deux formats.
Donc, est-ce qu'il faut faire plutôt du volume sur YouTube? On entend souvent parler de ça. C'est le volume qui est une des clés et travailler ses mots-clés, c'est ça?
Voilà. Alors, le volume, tu parles de faire
beaucoup
de vidéos. Moi, je pense que c'est important. Je conseillerais plus à des gens de faire pas mal de petites vidéos qu'une grosse vidéo d'une heure. Effectivement, pour commencer, pour plusieurs raisons, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais ça, je pense que c'est important parce que plus on fait des vidéos spécifiques sur un sujet, donc de 5 minutes, mieux ça va être pour le référencement. Parce que si on fait des vidéos d'une heure, en réalité, on va parler de 10 choses différentes et puis ça va être dur d'être référencé et de se retrouver dans les résultats de recherche de Google. Donc, pas mal de petites vidéos. Ça n'empêche pas de faire des grandes vidéos de temps en temps. Et puis, pour les mots-clés très importants dans le titre, dans la méta-description, et là, il faut vraiment y aller. Les gens, ils se disent « Oh, c'est long ». Mais moi, ce que je fais dans la description, c'est que les gens, ils ne lisent pas vraiment. Ils ne vont pas lire, si tu mets ça, ils ne vont pas lire tout ça. Donc, écrire comme si tu parlais. Tu peux même faire quelques fautes, ce n'est pas grave. Tu écris, tu expliques ce que tu as dit dans la vidéo. Et puis, si ça fait 100 mots, tant mieux. Et ça plaît à Google et puis personne ne va vraiment lire. Et c'est très bon pour le référencement. Et évidemment, mettre les mots-clés, les tags. Un conseil que j'ai entendu une fois, c'est de mettre les noms et prénoms de nos concurrents. Voilà.
Alors ça, c'est le premier conseil, faire du contenu sur lequel on est à l'aise, par exemple pour toi de la vidéo.
Voilà.
Deuxième,
c'est que plus jeune, je me suis dit, oh, j'aimerais tellement écrire un livre, pouvoir
transmettre
des connaissances. Et puis, j'aime créer en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui m'est particulier. J'aime créer. Et puis aujourd'hui, c'est formidable, avec l'auto-édition, on peut écrire ses propres livres. Et j'ai pu diffuser donc mon e-book au début, parce qu'avec KDP, Kindle Publishing, un truc d'Amazon, on peut publier son e-book. Mais on peut, pour le coup, ça ne demande pas beaucoup de travail, de simplement rendre disponible l'e-book en version papier. Et ce que fait Amazon, c'est formidable. C'est-à-dire qu'il va imprimer à la demande. Si tu as une personne qui commande, eux, ils te l'impriment et te l'envoient dans 3 jours. Et donc, tu ne stockes pas, tu n'as aucun investissement, ça coûte 0 euro. Et donc, ça m'a permis de toucher des gens que je n'aurais pas touché autrement parce que les gens, ils aiment le papier. Il y en a encore.
Oui, puis même, tu peux l'envoyer à des influenceurs,
voilà.
À des journalistes et tout ça. Donc, en
fait, j'ai fait des cadeaux aussi. Donc, moi, je le vends très peu cher. Je le vends le minimum, je crois que c'est 3,68 euros. Parce que je compte pas être millionnaire avec des livres. C'est vraiment pas ça le but, même si un petit kiff à la fin du mois de recevoir un petit chèque de 10 euros, de se dire, oh, je gagne de l'argent en vendant mon livre, c'est incroyable. Mais c'est plus l'idée de prospecter. Donc, les gens, ils vont acheter ton livre, ils vont avoir le truc, ils vont le feuilleter, ils vont le garder chez eux. Et toi, ça ne te coûte pas d'argent, tu gagnes 10, 20 centimes. Eux, ils perdent presque quoi, ils payent à peine 3, 4 euros. Et donc, ça m'a permis de, aujourd'hui d'avoir une meilleure notoriété parce que j'ai mon propre livre. Donc, tout le monde peut le faire. On peut faire un très court livre.
20 pages.
Voilà. On peut faire un petit format et puis avoir son petit livre, pas pour inventer des histoires, hein, mais simplement pour dire, voilà, moi j'ai du contenu, je peux vous le proposer en format papier, tout de suite dans le
l'imaginaire, oui.
L'imaginaire des gens.
C'est que c'est vraiment voilà. Un bouquin, c'est un auteur, c'est quelqu'un qui écoute. Ça prouve le sérieux.
D'accord, donc c'est le guide du blogueur, s'il y en a qui sont curieux, j'aurais pu le ramener.
Je mettrai le lien.
Voilà.
Alors le troisième.
Troisième, c'est d'avoir fait des tutoriels. Et ça marche extrêmement bien sur Google, sur le référencement. Tu le sais, hein. C'est que les gens sur le web, ils ne tapent pas simplement vidéo marrante ou vidéo instructive. Ils ont un problème. Et là, par exemple, moi, j'ai fait un tutoriel, c'est comment créer un blog avec WordPress. Donc, tu te références sur ça, tu fais un bon tutoriel. Tu te retrouves donc dans les résultats de Google parce que tu as fait un tutoriel qualitatif et quantitatif, tu mets des vidéos, tu mets quelques photos et Google, on peut toujours discuter de l'algorithme, mais si tu fais du bon contenu, il le verra, il le verra tôt ou tard. Et donc, ce tutoriel-là, hormis le fait que ça aide beaucoup de gens et j'en suis super content parce que moi aussi, j'ai pu profiter de tutoriels de ce type à l'époque, mais ça me permet aussi de gagner de l'argent via de l'affiliation. Je suis affilié à One&One et donc quand les gens ils cliquent sur mes liens et je le dis que c'est un lien affilié et qu'ils prennent un hébergement, bah, en tant qu'affilié, je touche une petite commission. Et pour certains, ça peut être des
chiffres. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.
Voilà, et puis quand tu fais ça pendant 2 ans, 3 ans, ça te fait un revenu automatisé. Quand tu additionnes, moi, ça s'est passé à 4 chiffres. Tu vois, si je cumule. Donc, c'est très sympa. Donc, c'est les trois réussites que j'ai eues et c'est les conseils que je donnerais.
Alors, quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre?
Alors, moi, ce que j'ai négligé, c'est le freelance au début. Et j'écoutais Gary Vaynerchuk qui me disait une règle très simple en réalité, mais c'est le cash, c'est extrêmement important. Parce que quand tu n'as pas de cash les premiers mois ou la première année, bah ton entreprise, tu vas la fermer à un moment donné. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, la meilleure communauté du monde, la plus grande influence du monde. Si tu n'as pas d'argent, au bout d'un moment, bah voilà. Et ça m'est arrivé. Je ne l'ai pas vécu comme un échec parce que c'était comme une étape que je voulais faire. Voilà. Mais moi, je me suis lancé, j'étais salarié à un moment donné parce qu'à un moment donné, je manquais de cash et je cherchais un peu de stabilité. Donc, j'ai dû mettre entre parenthèses un peu mon business. Donc, faire du freelance parce que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement, concrètement. Et puis, ça finance les autres parties de ton business. Comme toi, tu es salarié. Bon, toi, tu n'es pas salarié.
J'ai été consultant aussi. Et c'est vrai que… Là, j'aurais une leçon importante à retenir, c'est d'essayer de ne pas faire des tout petits contrats. C'était mon erreur, moi, quand j'étais freelance, c'est de faire des petits trucs à 100 euros, 200 euros. Il vaut mieux faire des gros dossiers parce que ça prend autant de travail et ça rapportera vachement plus.
Ouais, et c'est plus stable. Et bah, moi, j'ai eu la chance de… Tu vois, cette association pour laquelle j'ai travaillé pendant 15 mois, je les ai gardés en tant que client. Donc, je fais 2-3 jours pour eux par semaine et effectivement, c'est beaucoup moins fatigant que d'avoir 10 clients. Tu vois. Donc… faire du freelance. Moi, à un moment donné, j'installais des blogs pour les gens et j'ai pas voulu faire parce que j'ai voulu essayer d'automatiser mon business trop vite alors que ce que j'avais besoin, c'était des liquidités un petit peu. Donc, si je pouvais revenir, ce serait faire plus de freelance, de missions, de prestations de services. Donc, ça, c'est mon premier conseil.
Et deuxième, erreur à ne pas commettre.
Voilà. C'est de ne pas avoir compté mon temps. Souvent, moi, j'ai eu le privilège d'être à mon compte et du coup, j'ai du lundi au dimanche, de minuit à minuit, à 23h59. Et du coup, je me faisais plaisir. Je travaillais sur ce que j'avais envie de travailler. Il n'y avait pas de priorité parce que j'avais le temps. De toute manière, le matin, je suis obligé de travailler sur une tâche parce que l'après-midi, je vais pouvoir la faire. Et donc, en fait, on gaspille une ressource qui est très chère.
Tu disperses et tu ne vas pas rapporter du business. Tu fais un peu plaisir. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook au lieu de faire du business.
Voilà. Et ça, c'est très dangereux parce que on s'habitue. Moi, en fait, j'avais une mentalité de blogueur, de marketeur, mais pas d'entrepreneur. Et l'entrepreneur.
Monter un business. Bah, c'est vrai que moi aussi, quand j'étais consultant, c'était un peu mon défaut. Je me disais, bah, tiens, je vais écrire du bon contenu. Mais je ne pensais pas aller chercher du client. Et c'est à un moment, j'ai eu le switch. Je me dis, oulala, attention Frédéric, c'est bien de rendre service aux autres, c'est bien d'écrire du contenu intéressant, mais il faut que tu fasses du business.
Exactement. Et ça, c'est vraiment que les gens ils retiennent ça. Parce que quelquefois, on nous vend un peu du rêve sur Internet. Lancez votre blog.
Travailler 4 heures par semaine.
Voilà. Et moi, je me suis fait avoir un petit peu par ce livre, avoir entre guillemets. Donc, moi, ça m'a beaucoup servi.
Alors, le troisième.
Troisième erreur, en plus de celle-là, c'est d'avoir arrêté à un moment donné le list building,
la création de la liste de prospects.
Voilà. Donc, j'avais atteint environ 1400, 1500 prospects. J'avais 1400 personnes qui étaient intéressées par le blogging. Et je me suis dit, oh, ben, c'est bien, il y a des centaines de personnes qui ouvrent mes emails. Et puis, je vais me contenter de ça et je vais maintenant viser un peu le qualitatif, créer des relations avec eux. Plutôt que le quantitatif. Et c'est une bonne chose parce qu'on peut avoir 1 million de personnes s'il n'y a aucune connexion. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose, mais pas au détriment de la quantité. Donc c'est
faut toujours alimenter parce que les gens, ils partent, ils sont intéressés ou ceci ou cela.
Mm-hmm. Et exactement. Et puis, à un moment donné, quand tu vends certains produits aussi qui valent un peu plus cher, qui coûtent un peu plus cher, sur 1000 prospects, tu ne vas pas avoir 10% de gens qui vont payer une formation à 1000 euros. Donc ça, faut le savoir. Et puis aussi, ça te pousse à progresser. Le fait de chercher à atteindre plus de monde, bah, tu te dis, ah, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Quel partenariat je peux créer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quelles ressources je peux fournir en plus? Et donc, c'est aussi très stimulant. Et puis, tout simplement, ça aide plus de gens. Parce qu'au bout d'un moment, on pense à soi, on se dit, c'est top ce que je fais, c'est bien, on pense à soi. Mais si ton message, ton contenu, tu peux aider 10 000 personnes au lieu de 1 000 personnes. Bah,
et alors, qu'est-ce que tu as fait? Tu as amélioré la conversion de ton site? Tu as généré plus de trafic? Tu as fait des partenariats?
Non, c'est un peu ça mon ah oui, qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps-là? Bah, je me suis lancé.
Pour générer plus d'abonnés à ta newsletter, à ta liste d'abonnés.
Voilà, c'était la pop-up sur le site, d'accord, qu'on n'apprécie pas forcément, mais qui marche.
Ouais.
Ce que je faisais, c'était des webinaires. Les gens devaient s'inscrire pour assister à ce séminaire en ligne. Et moi, je récupérais leur email et derrière, je leur envoyais des emails. Et puis, par exemple, j'ai négligé le fait de faire des articles invités chez d'autres personnes pour attirer du trafic. Donc, voilà. Donc, je savais ça, mais je n'ai pas exécuté assez. Je me suis un peu contenté de…
Du train habituel, publier voilà. Un article sur le blog de temps en temps. Or, en fait, c'est important d'aller capter.
Bien sûr.
Bah, merci pour ces trois conseils et ces trois erreurs. Si on veut en savoir plus, je crois que le 16 avril, ouais. Plutôt, on a une conférence. Alors, dis-nous voilà. Quelques mots dessus.
Alors, avec Frédéric, donc Frédéric, Nicolas Penn et Rémi Bigot et moi-même, on va former, encourager, inspirer des gens, pas seulement à des techniques de marketing, de blogging, mais à réfléchir comme des entrepreneurs. Donc, c'est le 16 avril, c'est à Paris, ça s'appelle la conférence aux preneurs. Vous pouvez taper conférence aux preneurs sur Internet, vous tomberez dessus. Donc, c'est de 8h30 à 18h avec une soirée. Il y aura une quarantaine d'entrepreneurs individuels, de blogueurs qui aspirent à développer leur business ou qui sont déjà confirmés. Et donc, c'est vraiment un lieu d'apprentissage, de formation, mais aussi d'encouragement. Et ça, c'est extrêmement précieux quand on est entrepreneur en solo.
Ouais, l'énergie, c'est vrai que c'est une quantité limitée, cet enthousiasme-là, ça booste en fait une journée comme ça et ça permet d'avancer pendant quelques semaines, quelques mois et avancer sur ton projet.
Ouais.
Bah, merci pour toutes ces informations, puis à bientôt.
À bientôt.